Là, ben, j'ai ouvert 35 magasins comme ça, avec un cartable, sur la route, dont certains acheteurs qui ne me connaissaient pas. Fait que là, c'est une jeune acheteuse, pas te faire attendre 45 minutes, tu sais, puis là, t'es avec ton cartable, puis tu sors avec une commande de 6 500 $, tu sais. Fait que je suis passé de 22 millions à 6 500, mais le 6 500 était presque plus important. Fait que l'humilité, si t'es pas capable de faire ça, tu pourras pas repartir une autre marque, tu pourras pas repartir un projet.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 76e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réels qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir un entrepreneur qui connaît le commerce de détail comme peu de gens que j'ai pu rencontrer dans le passé. Jean-Pierre Ferrandez, président et fondateur de Indieva et anciennement propriétaire de Lolé et Paradox, vient partager avec l'audience de Hypercroissance aujourd'hui les anecdotes croustillantes de son parcours entrepreneurial depuis les années 90. Afin de bien situer tout le monde, Lolé et Paradox sont devenus des entreprises internationales sous la gouverne de Jean-Pierre en générant des chiffres d'affaires frôlant les 100 millions annuellement. Toujours avide de nouveaux défis, Jean-Pierre a recommencé l'aventure en 2013 avec Indieva et est en train de construire une marque encore plus dominante que les précédentes qu'il a créées. Sans plus attendre, ma discussion avec Jean-Pierre Ferrandez. Jean-Pierre Ferrandez, vous êtes président et cofondateur de l'entreprise Indieva, une entreprise qui conçoit des vêtements de plein air pour les femmes. Préalablement à Indieva, vous avez fondé en 2014, vous avez été derrière le développement des entreprises Lolé et Paradox avec le regroupement Coalition. Jean-Pierre Ferrandez, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ben merci à toi de m'avoir invité, Antoine. Je suis très honoré, je suis content de partager un peu de mon expérience, peut-être des histoires intéressantes, puis peut-être inspirer certains de tes auditeurs. Là.
Ben je pense qu'avec le background entrepreneurial que tu as, c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui. Puis Jean-Pierre, on va rentrer dans le vif du sujet. T'es dans le marché, t'es dans l'industrie du textile depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Peux-tu nous dire aujourd'hui comment a commencé ton aventure entrepreneuriale, je pense, à la fin des années 80?
Oui, exactement. Mais c'est drôle parce que ma mère me racontait, on passait dans Chabanel quand j'étais plus jeune, puis il y avait des belles autos, puis genre, moi, plus tard, je vais travailler dans le vêtement. C'est un peu comme ça que j'ai choisi, mais en réalité, non, je suis passionné par l'industrie du vêtement. Puis quand j'étais sur l'équipe de ski de l'Université du Québec, dans les fins des années 80, il y a la fondatrice des vêtements Orange, Evelyne Trump, qui avait fait les ensembles pour l'équipe de ski de l'UQAM. Puis je dis, ah, moi, je pourrais te vendre ça, ces manteaux. Là, je me sentais très, très hot. Puis j'ai commencé à être agent pour Orange, les vêtements Orange. Dans les années 90, on a une super belle croissance. L'industrie du vêtement, c'est un peu cyclique, etc. Fait qu'après ça, on a eu d'autres idées. Moi, j'ai eu l'idée d'aller vers Costco pour avec une nouvelle marque qui était Paradox. En fait, Paradox, c'est une marque qui avait existé, qui avait fait faillite. J'avais juste racheté le nom, puis je l'ai réinventé pour vendre à Costco. C'était une belle histoire. On est monté à un moment donné à 1,5 million d'unités de sous-vêtements techniques vendus dans les Costco à travers le monde, États-Unis, Corée, Japon, Taïwan, Australie. Puis la marque Lolé en 2002 aussi. C'était une tendance un peu. On avait connu les vêtements unisexes. Là, on commençait à faire des vêtements pour femmes. Puis on s'est dit, on va faire une marque juste femmes, plein air, Lolé. On l'a commencé super tranquillement. Puis ça nous a surpris, ça a monté très vite. Fait que le groupe Coalition, ben, c'était ces trois marques-là. On avait des synergies, on avait de la gestion des brands, puis ça a été une aventure exceptionnelle. Moi, j'étais associé avec les fondateurs, en fait, là, Evelyne Trump, Éric Danjou, puis Alain Nollet. Puis t'as parlé aussi dernièrement d'Alain Nollet qui est chez Poche et Fils comme consultant.
Exact.
toute l'expérience qu'on a eue ensemble. Moi, je lui avec la fameuse équipe de Poche et Fils. Moi, c'est chez Edgena et Dieva. Là.
OK. Il est avec vous également dans le conseil?
Non, on est plus ensemble, mais de tout ce qu'on a vécu, on a fait tellement de choses qu'à un moment donné, ben, ça fleurit ailleurs. Là,
bien sûr.
Oui, il y a l'effet d'entraînement.
Mais je te trouve très humble, Jean-Pierre, parce que là, tu dis que t'es arrivé tranquillement, mais tu m'as dit juste avant le podcast que t'as intégré le groupe Orage, puis à ce moment-là, c'était pas grand-chose. C'était 30 000 $ de chiffre d'affaires seulement. Et là, vous avez vendu le regroupement, je pense, juste avant le début des années 2010. Parle-nous un petit peu de ça, là, des chiffres de un à l'autre, parce que t'as fait un très gros impact quand t'es arrivé, parce que c'était tout petit au début.
Mais tu sais, premièrement, ben tu sais, je pense que l'humilité, c'est une de mes valeurs numéro un en affaires, tu sais. Puis moi, ça fait, tu sais, ça fait 30 ans que je fais des affaires dès qu'on est sorti de l'université. Puis faut être humble parce que sinon, la business te rend humble si tu l'es pas.
Oh oui.
Parce que t'as toujours des catchs. On le voit avec la COVID, il y a des histoires qui se passent. Fait que l'humilité, c'est pour moi, c'est une valeur que je l'ai de façon naturelle, mais je la cultive en même temps. Mais quand j'ai rejoint Evelyne Eric, c'était 30 000 $ de chiffre d'affaires. Puis quand on a vendu la compagnie en 2008, on était à 80 millions. Fait que c'était une grosse ride. Effectivement, on n'a pas fait énormément de presse avec ça. Moi, j'étais un peu en arrière de ce couple fondateur-là. Même j'étais associé puis vice-président exécutif. Mais c'est sur le terrain que ça s'est passé. Puis au-delà du chiffre de vente, Orage dans 22 pays, tu sais, à un moment donné, c'est Orage dans des magasins à Oslo, à Barcelone, à Tokyo, tu sais, à New York, Paragon, là, c'est ça qui est le fun de voir cette croissance-là. Puis après ça, tantôt on en parlait de Paradox, mais t'arrives chez Costco en Corée, puis il y a une palette de Paradox qui est là. Puis bon, ça vient d'une idée que t'as eue quelque part, puis tout ça. Fait que ouais, oui, il y a une super belle ride, mais en même temps, il y a beaucoup de reconnaissance avec les gens avec qui on a travaillé, les clients qui ont cru en nous, les consommateurs qui ont acheté ces produits-là. Puis moi, je vois ça comme ça. Fait que j'étais chanceux de toute cette dynamique-là qui m'a préparé, en fait, pour mon... sans doute mon dernier projet, ma quatrième run, ouais.
On va en parler dans quelques minutes de ça, mais j'aimerais revenir un petit peu à ton aventure avec Lolé, Paradox, le groupe Orage. Quel était ton rôle spécifique? Est-ce que au day-to-day, tu étais davantage au niveau au responsable des opérations, du développement d'affaires? Tu nous as parlé de l'implantation dans certains pays. Quel était ton rôle spécifique au jour le jour?
Ben moi, j'arrivais des ventes. Moi, je suis le vendeur, tu sais.
Okay.
Puis, je suis un gars qui... pas mal de drive, j'aime ça aller à l'arrière des choses. Fait que rapidement, ben, le vendeur, il s'implique dans le marketing. Fait que là, je suis devenu directeur vente et marketing, tu sais. Après ça, ben, le marketing avait beaucoup de choses à dire dans le produit, tu sais. Fait que dans toutes les meetings de produits, dans le merchandising. Quand on est arrivé avec Lolé, ben là, je gérais le brand au début parce que c'était un projet que je comprenais bien où il devait se vendre. La même chose pour Paradox. Après ça, ben, et on avait des soucis. Puis moi, ça, tu sais, j'écoute beaucoup. Des fois, j'essaie d'apprendre une chose d'une personne. J'étais très fasciné par Jake Burton, chez Burton. Puis je parlais sur tout ça. Il était à juste l'autre côté de la frontière. Puis on avait un bureau, nous aussi. Le mot m'échappe, là, c'est Burlington, à Burlington. Puis je parlais avec du monde de Burlington, de Burton. Puis quelqu'un m'avait dit, sais-tu pourquoi Jake Burton, c'est un super entrepreneur? Je dis non. Parce que quand il y a eu des problèmes avec les bottes Burton, Jake a dit, je vais m'occuper des bottes pendant un an. Il a déménagé son bureau dans le département des bottes, puis il a géré les bottes. Puis après un an, le problème était réglé. Moi, j'ai fait la même chose dans ma carrière. Souvent, à un moment donné, j'étais sorti de mon bureau, j'étais dans une salle de commune, travaillais avec 6 personnes, espace ouvert, puis j'étais encore en espace ouvert aujourd'hui, puis ça demande beaucoup. Puis on va travailler ensemble, coude à coude, puis tout ça. Fait que je faisais ces choses-là, puis je m'impliquais dans tout. Puis à un moment donné, ben la production, on avait des défis en production. Puis là, je disais, ben moi, je vais m'occuper de la production aussi. J'ai ouvert un bureau à Hong Kong, Coalition Hong Kong. Fait que je l'ai ouvert en collaboration avec Diane Paradis, la vice-présidente de production à ce moment-là. Puis on a drivé ça, puis on a fait avancer ça, puis les usines. Puis là, on va négocier avec les usines comme on négocie avec nos détaillants. On va demander comment on peut les aider, comment on peut travailler avec eux. On va instaurer du partenariat, etc. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu touches à beaucoup de choses. Orage, écoute, l'orage de développement des affaires en Europe, c'était assez drôle parce que le plus gros show de l'industrie du sport au monde, c'est ISPO, c'est à Munich. Puis c'est un show qui est extrêmement excitant, puis... Les Allemands, ils font bien les choses. T'as un métro qui arrive. La première station, c'est l'entrée Est. L'autre station, c'est l'entrée Ouest. Puis, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, avec Orage, on voulait commencer à vendre en Europe. Puis moi, j'ai fait une présentation. J'ai été voir le président d'ISPO. J'ai fait ma présentation. À la fin de la présentation, il s'est retourné. Il a pris le plan d'ISPO. Il a déroulé la carte. Puis il m'a dit, où tu veux être dans le show. Puis j'ai dit, Spider, c'est la marque la plus haute. Moi, je veux être entre Spider puis la porte. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en Europe. Ça a été passionnant, le développement de la marque là-bas. Puis j'ai appris aussi beaucoup sur les Européens. Tu sais, j'avais toujours la même formule. Je disais aux distributeurs, fais juste me donner un hôtel qui est pas trop loin de chez toi, de ton bureau. Je vais prendre un taxi, je vais aller te rencontrer. Puis après ça, je retourne à l'aéroport. Tu sais, puis dans le nord de l'Europe, ils sont plus froids, ils sont très efficaces. Puis c'était comme ça que ça se passait. Puis j'arrivais à leur bureau. Puis des fois, on dînait ensemble. Puis ils me ramenaient à l'aéroport. Puis quand j'étais arrivé dans le sud, ben en Espagne, ben là, j'étais là 3 jours. Puis on n'a pas parlé d'affaires pendant 2 jours et demi. Fait que ça, c'était... T'apprends à connaître les gens, t'apprends... Puis le premier que j'avais signé, c'est le distributeur autrichien, Bert Maurer, puis il me disait, « Chippy, don't go on vacation in the north, but don't do business in the south. Do business in the north, go on vacation in the south. Uh-huh. » En Europe, c'est comme ça. Fait que t'sais, toutes ces expériences-là, c'est des projets que j'ai fait un avec après les autres en 20 quelques années, mais c'est une opportunité exceptionnelle de se réinventer à travers ces missions puis le projet, puis en même temps on fait pas ça pour le plaisir, hein, ça rapporte, tu sais, c'est quelque chose, ça rapporte, puis ça motive les équipes. Puis quand on avait une gang de Québécois qui avait un des boots les plus hottes à Ispo, puis on faisait tout un party de Canadiens là, le deuxième soir du show, puis tout ça. Fait que ça a été bien le fun. Non, mais ça fait que j'ai touché à beaucoup de choses avec mes associés. Puis ça a été une belle compagnie familiale qui a grandi, qui a été hyper forte. Mais en même temps, nous, on sortait tous de l'école. T'sais, on était tous des gens qui avaient... Alain, le CFO, avait de l'expérience en cabinet comptable, mais on était tous des gens qui n'avaient pas connu d'autres choses avant. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on se dit, on va vendre, il y a des gens qui vont nous expliquer certaines choses, puis tout ça. Puis ben moi, je me suis rendu compte qu'on était pas mal bon dans ce qu'on faisait.
Bon, c'est quand tu vends que tu te rends compte que finalement, tu savais de quoi ce que tu faisais au day-to-day, là.
Je pensais qu'il allait avoir des techniques spéciales, mais non.
Ah, il y a pas grand-chose qui change à part le travail, peu importe ce qu'on va te dire, là, c'est ce qui va compter le plus à la fin de la journée. C'est l'effort et la passion que tu vas y mettre. Mais je suis curieux, quand la transaction s'est faite, je pense que tu me disais c'est aux alentours des années 2008-2009.
Oui.
Est-ce que c'est l'entité au complet qui a été achetée ou il y a
oui.
une...
Oui, 70 % de l'entité. Nous, on avait gardé 30 %
OK.
Puis c'était Kilmer Capital... André Laforge, Marc-Claude Boisvert de leur bureau de Montréal, mais c'est un fonds d'investissement de Toronto. Puis ça a été super. C'est des gens qui sont super. Ça a été très smooth. Une belle histoire. Mais bon, tout le monde, tu sais, ça réorganise les postes, ça remet les priorités en vue. T'as un peu eu l'impression que tu voulais arriver là. Puis t'es arrivé là. Puis moi, à ce moment-là, je me suis dit, oh my God, c'est la journey qui est le fun, c'est pas la destination.
Exact.
Parce que peu importe, tu peux te promener dans un char sport tout seul, t'as pas autant de fun que quand tu t'en vas avec une équipe de deux ouvrir Costco US puis que t'as la commande. Ça, là, on est chanceux. Quand tu fais un super produit, un nouveau manteau encore du roi, puis là, tu sors ça, puis tout le monde dit, ah, ce manteau-là est exceptionnel, puis etc. Fait que ça, c'est la destination qui, moi, ça m'a permis de voir que ce que j'aime, moi, je suis un gars de terrain, je suis un gars de plancher, je suis un gars qui est passionné par le produit, je suis un gars qui, je passe, j'arrive à un arrêt d'autobus, il y a 3 madames avec des manteaux, il y en a une qui a un manteau Indieva, je me dis, ah, j'espère qu'elle est plus chaud que les autres, j'espère qu'elle est mieux, en partant, elle est plus belle que les autres. Puis j'aurais envie d'aller dire, hey, est-ce qu'il est correct votre manteau, puis tu sais, mais passionné par ça. Puis moi, c'est beaucoup plus ça que de dire, ben on a vendu tant, puis on a fait tant, puis ouais. C'est la journey qui était intéressant.
C'est pour cette raison-là que j'imagine que t'es pas resté longtemps par la suite dans la corporation, dans l'organisation quand il y a eu l'acquisition, parce que faut le dire un petit peu pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça a pas été long et si je ne me trompe pas, c'est en 2013 et 2014 que t'as lancé Indieva. Donc, parle-nous un petit peu, je serais curieux que tu nous parles du cheminement qui s'est déroulé entre l'acquisition que tu nous as dit et par la suite le lancement de ton autre organisation. Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que déjà, au moment de l'acquisition, tu savais que tu allais lancer une autre corporation ou il y a peut-être eu un certain moment de flottement que tu te posais des questions sur quel allait être ton prochain projet?
Écoute, il y a eu un gros moment de flottement, là, puis ouais. Ça s'appelle le non-compete. Mais en même temps, moi, je m'étais pris un petit bureau, j'avais un immeuble, puis il y avait un petit loft de disponible. Puis le deuxième jour, là, j'ai arrêté coalition, je pense que c'est la fin mars, le 1er avril, j'étais dans mon nouveau bureau, puis je collais des papiers sur les murs, puis je m'étais dit je vais devenir distributeur parce que c'est quand même complexe la manufacturation dans le monde, le faire des affaires à l'international, puis tout ça. Puis tu sais, je dis ben je vais retourner aux sources, juste la vente, puis... Fait que là, étant donné que j'avais beaucoup de contacts en Europe, j'ai été rencontrer des marques européennes, puis je disais, bon, ben moi, je pourrais vendre vos produits en Amérique au complet. Puis là, je regardais le gars, puis il me parlait, mais j'avais juste envie de sauter l'autre bord du comptoir, puis de prendre sa job, tu sais, je trouvais qu'il parlait pas assez vite, puis qu'il y avait pas assez d'idées. Puis moi, j'arrivais, écoute, il y a une marque, là, je te dirais, ben, j'ai fait un livret de 32 pages, tu sais, j'avais pas grand-chose à faire. J'ai fait un livret de 32 pages coloré avec une graphie. Je l'ai fait imprimer, c'était un livre. J'ai dit, voici mon plan d'affaires. Le gars, il suait. Il dit, couton, même notre président, il fait pas ça. Parce que j'avais eu du temps de réfléchir. T'sais, c'était too much. Puis là, à un moment donné, dans ces discussions-là, je me suis dit, non, moi, je vais recommencer. T'sais. J'ai trop le feu sacré pour ça. Je vais lancer une nouvelle marque. Puis, j'étais resté sur mon appétit dans les dernières années chez Coalition, on parlait beaucoup de finances, on parlait beaucoup de business, on parlait pas beaucoup de produits, on parlait pas beaucoup de l'industrie du plein air, puis moi je suis passionné par ça. Fait que je dis non, je vais tu sais, il m'en reste une autre là, j'en ai un autre projet à l'intérieur, puis c'est de faire des vêtements plein air pour femmes, puis toutes les marques plein air ont été fondées par des hommes. North Face, Arc'teryx, c'est des marques qui sont fondées par des hommes qui ont fait de la femme. Mais la femme ne fait pas du plein air comme l'homme. La femme a fait du plein air, premièrement, de nos jours, peu importe le sport que la femme fait, elle veut être belle, elle veut bien paraître, elle veut être confortable, puis elle veut pouvoir avoir une plus longue expérience avec un vêtement qui est plus technique, qui résiste mieux aux intempéries, qui respire mieux, etc. Puis, quand tu fais une marque homme, ben tout l'étiquetage, bon, ben ça va être plus... ça va être noir et blanc, ça va être rouge, ça va être moins doux, ça va être un peu plus... in your face, un plus gros logo. Puis pour la femme, ben, elle veut quelque chose de une partie des femmes, en tout cas, voulait un branding qui est plus soft, qui est plus approprié juste pour elle. Fait que l'idée de faire une marque plein air femme pour compétitionner les segments femmes de marque homme, c'était une excellente idée, puis ça a fonctionné. Pour faire ça, j'ai enregistré la compagnie, etc. Puis j'ai été chercher Stéphanie Noël, qui est devenue mon associée, qui était une fille qui dessinait Orage, puis qui avait été head designer de Loli, puis qui a énormément de talent. Stéphanie, quand elle a fini Marie-Victorin, elle a commencé à travailler pour Castel Baljac à Paris. Puis comme je disais, dans d'autres choses que tu as déjà entendues, elle passait pas le balai là-bas. Là. Elle dessinait dans sa jeune vingtaine. Fait que... Puis je dis à Stéphanie, je dis, ben, voici le projet, regarde les vêtements femmes dans le plein air, puis je pense que nous deux, ensemble, là, on peut faire quelque chose de différent puis de beaucoup mieux, tu sais. Puis c'est né de ça, puis on parlait d'humilité. Quand j'ai commencé, la dernière commande, à la fin de mes années chez Coalition, je gérais Paradox. Tu sais, je faisais un fade-out, tu sais. Puis ma dernière commande, c'était Costco USA pour Paradox, 22 millions. Belle commande, au PO. Le PO que tout le monde rêve. Là, je suis reparti avec Indigena à l'époque, qui est maintenant devenu Indieva. Puis, ben, j'ai dit, moi, je vais m'occuper des ventes. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, je suis capable. Mais là, tu sais, tu t'embarques dans ton char, puis tu t'en vas attendre à la porte d'un magasin avec ton cartable. Puis, je voulais aller vite. Je voulais même pas avoir d'échantillon. Je suis avec juste des dessins, puis tout ça. Je voulais faire des ententes juste avec un cartable puis des dessins.
Oh, OK.
Il y a beaucoup de gens qui me recevaient parce qu'ils me connaissaient, mais ça fait longtemps qu'ils m'avaient moins vu parce que j'étais dans les bureaux, etc. Puis là, ben, j'ai ouvert 35 magasins comme ça, avec un cartable, sur la route, dont certains acheteurs qui me connaissaient pas. Fait que là, c'est une jeune acheteuse, pas te faire attendre 45 minutes, tu sais, puis là, t'es avec ton cartable, puis tu sors avec une commande de 6 500 $, tu sais. Fait que je suis passé de 22 millions à 6 500. Mais le 6 500 était presque le plus important. Fait que l'humilité, si t'es pas capable de faire ça, tu pourras pas repartir une autre marque, tu pourras pas repartir un projet. Mais aussi, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a énormément de détaillants et d'acheteurs qui ont dit « Hey Jean-Pierre, on va te supporter, on va travailler avec toi ». Puis ça, ces gens-là, je me suis dit qu'un jour, on va faire quelque chose de spécial pour eux. C'était extraordinaire parce qu'ils t'aident à faire la différence, ils t'aident à démarrer une entreprise. Mais sans humilité, sans le respect de ces décisions d'affaires-là, de tous ces détaillants-là, ces partenaires d'affaires-là, c'est difficile, tu souffres.
C'est pas possible.
Ouais. Pour moi, c'était quand même été le fun. T'sais, t'as Rimouski. je me suis promené au Québec. Au lieu de me promener à travers le monde, je me suis promené au Québec, puis un peu au Canada. Puis après, j'ai appelé des agents que je connaissais. Puis je t'envoie des échantillons, puis boîte de catalogue. Puis Jean-Pierre, j'ai ouvert 27 nouveaux clients. Oh, wow, OK. Fait que l'idée de démarrer Indigena Indieva, c'était ça. C'est another kick at the can, puis de faire quelque chose qui est vraiment encore plus pointu, un plan d'affaires qui est plus clair, puis qui est mieux positionné. Fait que après ça, t'as pas besoin de jouer. Tu sais, Orage, on est parti du ski, on était en plein air, on est revenu ski. Loli, moi, je l'orientais plein air. Quand la nouvelle administration est arrivée, ils l'ont envoyé vers très yoga. Il y a pas de distribution dans le yoga. Là, il y a distribution dans le yoga, c'est Lululemon, puis Lululemon vend du Lululemon. Tu sais, fait que moi, plein air, il y a une distribution qui est exceptionnelle, tu sais, à travers l'Amérique du Nord, tu sais, c'est un marché de 60 milliards de dollars, tu sais, puis je pense qu'après la pandémie, il va être rendu à 80, parce que si tu veux un paddleboard ou un vélo, tu sais de quoi je parle. Parce qu'il y en a pas. Ouais, exactement.
Intéressant, mais je suis curieux. Donc, de ce que je comprends un peu en ce moment, c'est que, à un certain point, toi, avec la réputation que tu t'étais faite à travers les années, tu as été capable de quasiment financer le début de ta nouvelle organisation avec des produits qui n'existaient pas encore. C'était uniquement des idées, des mock-ups. Mais vu que tu avais bâti cette réputation-là à travers les années, ces différents distributeurs-là te faisaient confiance, t'ont placé des commandes. Et est-ce que, littéralement, tu étais capable de toucher l'argent et d'aller financer d'autres projets avec ça? Est-ce que c'est un petit peu comme ça que ça s'est déroulé?
Mais, le développement de produits d'un vêtement, c'est 2 ans avant que ça arrive dans le magasin. T'sais, d'habitude, on fait des prototypes, on arrive, on fait des échantillons. Avec l'échantillon, tu vas aller chercher tes commandes. Avec la commande, tu pars en production, puis après ça, tu livres. Moi, je voulais sauver un an. Fait que je ne ferai pas d'échantillon. Je vais faire des dessins, puis j'ai un cartable. Puis effectivement, ben, tu sais, c'est très cash flow notre industrie. Puis j'ai dit, en sauvant un an, je vais sauver du cash flow. Oui, puis les détaillants ont dit OK, je vais embarquer parce que on sait que toi, Stéphanie et le restant de l'équipe à ce moment-là, qui est avec toi, là, Isabelle Degg, tu sais, on a confiance en vous. Mais ce qui est drôle en plus, c'est que moi, ça, c'est très drôle, puis moi, j'ai pas mal de sens de l'humour. J'avais fait des packages minimum, tu sais. Puis quand un détaillant me disait « OK, Jean-Pierre, j'embarque », ben je dis « Ben oui, il y a un minimum, c'est temps. » Ça a pas été long que j'ai arrêté de demander des minimums, là. Mais les détaillants, aujourd'hui, tu sais, on a des clients, nos gros clients, on n'en a pas beaucoup, là, mais il y en a deux qui s'achètent plus $1 million par année, ben sont contents. Puis, tu sais, des fois, là, la vie, hein, c'est quand tu donnes beaucoup d'amour, d'intention dans ce que tu fais, ça te revient toujours. Tu le fais de la bonne façon, ça te revient toujours. Puis il y a eu des synergies qui révèlent de, je sais pas de où, mais à un moment donné, je m'en vais à Vancouver pour engager une représentante à Vancouver que je connaissais. Puis je prends l'avion le samedi pour passer une journée le dimanche à Vancouver, puis le lundi, la rencontrer. Le vendredi, on reçoit un email de Mountain Equipment Co-op. On est en 2014, c'est la première année. Mais on a livré rapidement des manteaux chez Sport Expert Centre-Ville. Mountain Equipment Co-op sont venus au Centre-Ville. Ils ont vu ça. La marque était bien positionnée. Ils en ont acheté un. Puis, ils sont rentrés en contact avec nous. Là, l'acheteuse me dit, on aimerait ça te rencontrer. On est le vendredi. Ben, je vais être là lundi, tu sais. Je vais aller vous rencontrer lundi. Puis là, le lundi, à ce moment-là, Mountain Equipment Co-op prenait moins de marge que les autres détaillants. Fait que j'étais pas chaud à les ouvrir. Mais tu sais, moi, j'ai une marque qui démarre, là. Tu sais, ça commence. Mountain Equipment Co-op, c'est une super grosse business. C'est 500 millions de chiffres d'affaires, tu sais. Fait que, je vais rencontrer l'acheteuse, puis elle m'a dit « Wow! » Elle dit « La façon que vous faites les choses dans l'industrie du plein air, personne ne le fait. » Fait que, premièrement, je voulais te faire un gros check à notre plan d'affaires. Je dis « All right, le plan d'affaires, je vais travailler avec Patrick Gauthier, qui est un prof à l'UQAM maintenant, puis tout, puis avec qui j'avais travaillé chez Orage. Hey, on a un bon plan d'affaires, tu sais, Barbara Jacques qui a fait le logo, puis on a une belle histoire, puis parce que le leader du plein air au Canada me dit que cette créneau-là existe pas. Puis elle nous a placé une commande on the spot pour livrer now. Ça existe pas, tu sais. C'est trop beau pour être vrai. Mais on a bien fait les choses, puis le design était extraordinaire. Puis l'autre chose aussi, en 2013, moi j'avais pris l'avion, je m'étais promené, puis j'avais été voir des usines en Asie. Puis là, tu rencontres une usine, puis est-ce que vous voulez travailler sur mon projet? Fait que là, tu vends ton projet, puis là, tu as ton book, puis là, tu montes tes dessins, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on va réaliser. Puis il y en a un qui m'a serré la main à Jakarta, puis il me dit, nous, on va produire ton stock. On te demandera pas de minimum pour les premières années, puis on va donner 60 jours de paiement. Ça veut dire que le stock part d'Indonésie, il n'y a pas de lettre de crédit, rien, il arrive à Montréal, puis nous, on le paye. Fait que ça, c'est le réseau que s'est construit avec les années. C'est des gens que je connaissais. Fait que tous les morceaux ensemble, ben, à un moment donné, ça fait que c'est une histoire qui lève rapidement, tu sais.
Tu partais pas de zéro, là, on s'entend, là.
Non, ça partait pas de zéro. Mais en même temps, tu sais, j'avais toujours dit, moi, mon but dans la vie, c'est que, après 30 ans dans l'industrie, je veux marcher dans un trade show. Puis je veux pouvoir serrer la main à tout le monde. Il y en a peut-être deux que je pourrais pas serrer la main, c'est parce que ça me tente pas. Mais à part ça, toutes les autres, ça me tente, puis ça va leur tenter. Fait que t'as beaucoup de chances de chicaner en 30 ans de business. T'as beaucoup de chances d'avoir des conflits. Des conflits sur des territoires de vente, sur des commissions, sur des escomptes avec des détaillants, sur des exclusivités. Puis, si tu gères bien ça, là, ça vaut de l'or. Ça te revient. Puis moi, j'en suis un peu la preuve vivante, le chanceux, tu sais.
L'entreprise s'est construite pour un paquet de choses, un bon plan, comme tu le dis, mais essentiellement, la force de vente vient de ton réseau. Et même la force de production, un petit peu, de ce qu'on a été capable de comprendre, là.
Oui, absolument. Ben c'est que il y a le momentum, hein, la spirale ascendante. Tu sais, quand ça part, le momentum, la synergie. Il faut pas qu'il y ait de fuite là-dedans. Puis il faut que tout fonctionne en même temps. Puis il faut que les gens aient confiance. Puis il y avait confiance en moi. Puis quand ils regardaient le produit, il y avait confiance en Stéphanie. Puis les gens qui sont venus travailler pour nous, sont venus travailler sur ce type de produit-là. Puis on dit, oh, ça c'est vraiment des beaux produits. J'ai envie de collaborer à faire avancer cette entreprise-là. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'on a une équipe exceptionnelle. Tu sais. Puis rapidement, je peux dire que ça avance. On a mis beaucoup de sous là-dedans quand même parce que c'est très cash flow. Puis à un moment donné, l'agent de vente d'Orage au Québec, moi j'ai laissé les ventes à un agent qui est un ancien agent d'Orage puis qui commence à vendre Indigena, un collaborateur des années 90, Simon Noël. Puis il me dit, Jean-Pierre, j'ai un de mes chums, là, serait intéressé d'investir. Oh ouais, parfait, pas de problème, merci, on n'a pas besoin. Là, ouais, Jean-Pierre, j'ai un de mes chums, serait intéressé. Puis, c'est qui ton chum? Martin Gauthier, président de Sidley Montréal. Fait quoi? Wow, ils ont vendu à Q au Japon. Il y a de l'argent à investir. Fait que là, à un moment donné, Martin Gauthier, président de Sidley, on va le rencontrer, tu sais. Puis, on est devenu associé. Il a investi. C'est un associé qui est extraordinaire. Il est avec nous. On est trois propriétaires dans l'entreprise. Puis, c'est une histoire, une belle histoire, parce que, tu sais, Martin, il nous laisse la place qu'on a à avoir. Il est là quand on a besoin. Je sais pas si tu sais c'est quoi, mais il y a un bon Rolodex. Tu sais, à l'époque, ouais, on avait ça avec les cartes d'affaires, là, tu tournais
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais.
Martin, il a un excellent Rolodex, tu sais. Puis, quand on a besoin d'aide, il est avec nous. Puis, on a des boards très bien organisés. Puis, fait que ça a été la, tu sais, quand on parle de synergie, ben là, tu rajoutes Martin dans l'équation. Fait que là, c'est le fun, parce que là, on a fait un rebranding. On voulait évoluer d'un Indigena. L'appropriation culturelle, Mountain Equipment Co-op, on fait un document qui s'appelle Think Before You Appropriate. Tu sais, ça veut dire pense avant de t'approprier. Il disait, si tu prends un print Navajo pour faire un polar, ben, nous, on veut voir que t'as payé un artiste Navajo. On veut pas que tu l'as interprété toi-même. Donc, moi, je me suis dit, ouais, ça, ils ont raison, puis nous, faut qu'on fasse quelque chose. Fait qu'on a évolué on voulait garder la même connotation, on a juste changé deux lettres, d'Indigena à Indie Eva, Indie indépendante, Eva femme. On aime beaucoup ça, c'est beaucoup plus moderne. Fait quand on a fait ça, ben c'est l'équipe de Martin chez Sidley qui a fait tout le logo, etc. Fait que ça ajoute dans la synergie. Puis après ça, ben on a des consultants. Moi, je sais que là, peut-être que je parle trop, là, je vais peut-être
ben me non, poser des questions. C'est, okay. C'est très intéressant.
Ouais, mais quand j'ai démarré aussi, je pense que quand on voit comment le Canada gère la pandémie, on est très riche comme pays, tu sais. Il y a la SSUC, il y a eu la PCU, il y a l'achat des vaccins, etc. Mais quand tu pars en affaires, tu fais le tour de PME Montréal, de jour 1 qui m'ont supporté, qui ont investi, ont fait un prêt de fonds de roulement, de BDC, de DEC, de BDC, Banque de Développement Canada, DEC, Développement Économique Canada, Exportation Développement Canada, après ça, Investissement Québec. Là, t'as tout un pool. Là. Tu sais, tu dis, wow, on va consulter tous ces gens-là puis on va se créer un réseau. Puis j'avais dit à une dame chez BDC, j'avais dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me conseiller un CFO là, à la pige, tu sais, quelqu'un qui va me conseiller sur mon financement, sur ma croissance. Je veux pas être pris de court. Tu sais, à un moment donné, tu vends 2 millions de plus puis quand tu passes de 2 à 5, de 5 à 10, tu sais, c'est ça va chercher du cash flow. Fait que elle m'avait référé Jasmine Bilodeau de chez Demers Bond, puis Jasmin, c'est un kingpin de, du financement d'entreprise. Puis il a commencé, il est arrivé dans notre petit local, puis OK, c'est ça le projet. Puis là, Jasmin, là, on est à 2,5 millions, on va vendre 5 millions. Ah, OK. Là, on a vendu 5 millions. Ah. Là, après ça, Jasmin, on va passer de 5 millions. Ah oui, OK. Fait que là, Jasmin, il est embarqué dans le projet, puis il nous aide beaucoup aussi. Fait que, encore là, quand on parle de synergie, d'écosystème, moi, j'aime ça appeler, tu sais quoi ton écosystème?
Ben oui.
Puis j'avais on est allé dans un voyage de vélo avec un ami pour sa fête en Arizona, puis il y avait un autre ami qui était là, Artenio Chichin, puis Art, il me donne des conseils, tu sais, puis c'est un ancien copropriétaire de Valmont. Ils ont vendu les épiceries Valmont, puis c'est un gars d'opération. Là. Lui, là, le fruits et légumes, il y a de la perte, puis tout, puis ça roule, puis il savait comment gérer ça. Puis... Fait qu'on parle d'opération, puis il me donne des bons conseils, là, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, puis il y a toujours la phrase clé, puis tout ça. Fait que là, il devient un consultant dans l'entreprise, puis là, à un moment donné, ben on a une super comptable que je connaissais, Lucie Brasseur, qui a été chez Trudeau pendant 25 ans, 100 quelques millions de chiffre d'affaires, c'est la CFO, tu sais, puis... Fait que Lucie, on a besoin de conseils. Fait que là, on a un réseau, là, qui est très fort, puis là, à un moment donné, on s'est dit, puis c'est Art qui m'avait dit, Jean-Pierre, moi, là, j'ai un regret chez Valmont, c'est que j'ai jamais eu de board. J'aurais dû avoir un board. Fait que je dis, ben, moi, j'écoute, là. Je vais avoir un board. Fait qu'on s'est fait un board qui est très fort. Tous ces gens-là sur le board, on a des gens qui sont sur le board, puis on a les consultants. Puis au niveau marketing, Martin est excellent. Puis on est allé chercher quelqu'un d'autre, parce qu'on a beaucoup de monde finance opération. On est allé chercher Jérémy Breslin, le fondateur des casquettes Cielé. Pas juste les casquettes, mais Cielé Athlétique. Jérémy, c'est un ancien employé qui a beaucoup, beaucoup de talent en branding, puis en marché, puis qui porte la casquette à quel moment, puis innovator, early adopter, early majority, lui, il contrôle très bien ça. Fait que on continue à travailler l'écosystème à la direction. Mais ça, c'est la même chose dans le patron, c'est la même chose dans l'équipe de design, c'est la même chose dans l'équipe de vente, tu sais. Compétiteur Artérix, Valérie Tétu, elle était chez Artérix, elle vendait des vêtements Artérix. Elle est devenue notre directrice des ventes. C'est facile, ton compétiteur. Fait que tu vas chercher. Puis, avec l'expérience, puis quand tu as du momentum, tu es capable d'aller chercher des super collaborateurs. Puis, ben, c'est ce qui fait que on a du succès. T'sais.
Wow. Tu as parlé de board. Sujet très intéressant d'avoir des gens qui connaissent l'entreprise, qui connaissent la business autour de toi, que tu es capable de leur poser des questions. On vient de vivre une année exceptionnelle, on va dire dans le sens négatif du terme, avec la COVID-19. Peux-tu nous dire l'impact d'un board quand tous tes distributeurs dans le monde doivent fermer les portes du jour au lendemain? Comment se déroulent ces rencontres-là avec ton board pour savoir comment qu'on sort de cette embuscade-là puis on continue à faire des ventes?
Ben, tu sais, moi, quelque part dans les chiffres, là, je suis majoritaire dans l'entreprise, je peux prendre des décisions, je suis chairman of the board, je suis président de fondateur de l'entreprise. Quand je travaille, là, je suis au service du board. J'ai des comptes à rendre au board, j'ai des documents à préparer, je dois écouter ce qu'ils me disent, puis j'écoute là, à la lettre. Parce que quand t'as une discussion de 5-6 personnes super intelligentes avec l'expérience, est toujours meilleure que ta décision à toi, à 100% des fois. Fait que c'est comme ça, moi, que je traite le board. Ça, je le gère, puis il me feed. Fait que quand tu parles de la COVID, plus que jamais, j'étais donc content d'avoir cet outil-là. Premièrement, c'est un des membres du board qui m'a appelé. J'étais au Mexique. Moi, j'étais parti le 11 mars. Il m'a appelé, Jean-Pierre, ils vont peut-être fermer les magasins. Really? Attends, là, on a des millions en compte à recevoir. Fait que là, c'est meeting de board par Zoom. Probablement, c'est quoi Zoom? OK, Z2OM. Parfait. Ça marche comment, cette affaire-là? Ah, pas au bureau. OK, super. Moi, j'ai deux jeunes qui sont à l'université. Fait qu'on s'est fait pas mal de bureaux chez nous. Mais là, écoute, ça a été une dynamique vraiment puissante. Puis ce qui est sorti de notre premier meeting, ça a été, premièrement, il faut bridger la crise. Il faut bridger la crise au niveau cash flow. On a des comptes à recevoir, peut-être qu'on les aura pas. Puis moi, le mot bridger la crise, on passe par-dessus la crise, j'aimais bien ça. T'sais. J'ai dit, OK, ben super. Fait que là, dans notre équipe, on a Jasmin, on a Lucie, on travaille sur des scénarios catastrophes. On va chercher le financement. On connaît tous les par leur premier nom, la personne chez PME Montréal, la personne chez BDC, chez EDC, on les connaît. Fait qu'ils connaissent notre projet. On les a entretenus avec les années. On leur a montré.
C'est important, là.
Exactement. Fait qu'on appelle tout le monde, on va chercher notre cash flow, puis ça, c'est correct, on est correct. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Finalement, en plus, on est chanceux parce que ce virus-là, il est pas transmis par un moustique dans le plein air, il est transmis par des contacts rapprochés, ouais, c'est ça. Fait que tout le monde fait du plein air et nos détaillants vont très bien, puis ils nous payent. Ben, pas au début. On a, le printemps passé, on a étiré les termes de paiement parce qu'on pouvait le faire, parce qu'on avait eu du financement additionnel pour la crise. Puis en même temps, nous, on s'est dit, c'est une crise mondiale, on a appelé nos usines. Puis quand on a des termes de 60 jours, on a dit, non, on va te payer en 5 jours. On était capable de faire ça. On a pris nos agents de vente, on a dit, non, on va te payer plus vite et à 100%. On a sécurisé encore là l'écosystème. Puis là, moi, je me suis dit, bon, c'est difficile ce qu'on fait. On a une petite équipe, c'est difficile, c'est des zooms, on n'est pas habitué, il y a beaucoup de d'incertitudes. Fait que ça va être difficile encore plus pour les méga compagnies que pour nous. Fait que c'est notre occasion de shiner, puis dans la turbulence, de sortir encore plus fort en bridgeant la crise, puis rebondir plus fort de cette crise. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus important? Moi, c'est clair que pour moi, s'il n'y a pas de produit, personne ne va faire d'argent. La marge, peut-être qu'elle va passer, elle va peut-être baisser de 10-15%, mais si tu fais pas de marge, tu n'as pas de produit, tu fais pas de marge, personne ne vit. Nous, on vit pas, le détaillant vit pas, le site web vit pas, personne ne vit. Fait qu'on, dans moi, j'ai beaucoup aimé dans ma carrière faire des choix en me disant, on est une équipe qui a du talent, puis quand on fait quelque chose, on le fait bien. L'enjeu est pas ce qu'on fait bien. L'enjeu est ce qu'on décide de ne pas faire. Qu'est-ce qu'on fera pas? Puis en marketing, c'est souvent ça, parce que les gens en marketing veulent tout faire. Moi, j'avais appris, ben, fais quelque chose, mais qui va marquer l'imaginaire. Fait quand on est arrivé à la crise, on regardait Patagonia. Patagonia donnait 20% d'escompte. Patagonia, c'est une super compagnie. Il donnait 20% de crédit sur toutes les factures. Si nous, on fait ça, on n'est pas fort, je peux te le dire. On n'est pas Patagonia, tu sais. Puis il y en a d'autres qui reprenaient des produits. Ah, ils reprennent tant de produits. Puis là, les détaillants sont stressés, les représentants sont stressés. Fait que là, moi, j'aurais dit, nous, là, on reprendra pas de produits, on créditera rien, sauf que on va produire 100% des commandes qu'on a reçues, puis on va être prêt à vous livrer 100% des commandes qu'on a reçues. Dans la tumulte, il faut se rappeler que Mountain Equipment Co-op s'est mis à l'abri de ses créanciers, qui ont finalement payé, mais sont passés d'une coopérative à une compagnie. L'accordé venait de se mettre à l'abri de ses créanciers. Sales s'est mis à l'abri de ses créanciers. Mais ils nous avaient passé des commandes. Puis nous, on a dit, on va produire votre stock. C'est le risque qu'on prend et on pense que c'est le plus payant pour nous. Mais votre crédit, personne. Puis on reprend pas de stock. On avait assuré nos comptes. On savait qu'on allait être payé pour tous ceux qui avaient fait faillite. Mais Mountain Equipment Co-op, à ce moment-là, c'était une commande de peut-être 500 000 pour l'automne. Ils l'ont annulée. On a continué de la produire parce qu'on s'est dit, ils ont besoin de stock cet automne. Puis on voit ce qui se passe. Puis là, moi, j'appelais dans les usines en Indonésie, là, avec WhatsApp. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis, ah, ils m'ont coupé la production. Nous, tu coupes pas la production. On produit à 100%. Fait qu'après ça, Mountain Equipment Co-op sont passés. Puis finalement, on leur a livré environ 700 000 $ parce qu'ils ont recommandé, ils ont recommandé, ils ont recommandé parce qu'ils pouvaient pas l'avoir ailleurs. Fait que ce choix-là de bien faire ce qu'on voulait faire et de ne pas faire à zéro ce qu'on voulait pas faire et de cibler, ça a été super, super positif.
Puis ça te met dans un rapport de force après la crise, hein? Parce que si tu freezes, sans faire de mauvais jeu de mots ici, pendant que tout le monde freeze, ben au final, t'es pas plus avancé que personne. Mais si, vous, de ce que je comprends, puis corrige-moi si je me trompe, vous avez eu une approche davantage à l'offensive, vous avez été proactif au lieu d'être réactif. Bien entendu, ça aurait pu mal tourner. Hein? On sait jamais ce qui peut arriver. Surtout en ce moment, c'est une chose qu'on sait maintenant, c'est qu'on ne peut pas prévoir le futur avec cette crise-là. Mais de ce que je comprends, au final, au moment où on se parle, on enregistre le podcast 9 avril 2021, vous devez être dans une belle position en tant qu'organisation.
Bien, on a eu, dans nos prises de commandes, ce que tu dis, là, Antoine, t'es exactement pile-poil, là, on a eu de la croissance. Nous, pour les commandes qu'on a prises pour l'automne prochain, on a 40% de croissance. On a un compétiteur aussi que c'est sur la protection de créanciers, c'est Lowly, que je connais assez bien.
Bien sûr, ouais.
Puis ben c'est ça. Quand c'est dans ces situations-là, il y avait des enjeux avec une représentante à Québec, là, Chantal Simard, puis elle a arrêté de travailler pour eux. Ben trois jours après, elle travaillait pour nous. T'sais. Fait que on a vraiment été de toutes les bagarres, mais en même temps, on a une équipe qui est vraiment, qui s'est mis en mode action. Tu sais, when the going get tough, the tough get going. Tu sais, ça c'est pas partout. Ben, puis c'est c'est en même temps très fatigant. On a hâte de prendre un verre ensemble, on a hâte de célébrer ensemble, mais tout le monde s'est mis là, dans mode alerte, s'est mis en mode « OK, on va conquérir ». Et c'est la raison pour laquelle aussi, nous, puis des fois, je me suis remis en question là-dessus, mais j'ai dit, on fait pas de masque, nous, parce qu'on veut pas vivre de la crise, on veut bridger la crise. On veut sortir de ça plus fort. C'est une très bonne idée, ceux qui ont fait des masques. Mais nous, pendant ce temps-là, nos produits, on les a rendus meilleurs. Et dans les usines, les équipes de production, les équipes d'échantillons, les équipes de tout le service de technologie, parce qu'on fait beaucoup de couture ultrasonique, thermocollée, découpeur au laser. Nous, c'est un vêtement qui est très technologique. Là, on doit se différencier. On a un produit qui est très haut de gamme. Mais il y avait plus de temps pour nous. Fait qu'on a avancé dans notre développement de produits 2 ans de ce qu'on aurait avancé 1 an. Et finalement, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on a été profitable en 2020. Puis on est en croissance de 40% en 2021. Donc, je pense que on revivrait pas cette crise-là, parce que moi, personnellement, j'ai eu très peur là quand les magasins ferment, etc. Et on veut pas braguer non plus, parce qu'il y a des industries qui ont eu de la difficulté. On a des amis restaurateurs, on a des amis qui sont dans des domaines la mode plus fashion, etc. C'est pas facile pour tout le monde, mais dans notre industrie, nous, on est un de ceux qui a un peu bénéficié de...
Quasiment, ben oui.
Oui.
Puis, je suis curieux, on parle beaucoup de détaillants, de ventes, de commerce au détail. Comment se déroule le volet en ligne pour votre organisation?
Ben, tu sais, c'est super intéressant, parce que quand on a commencé l'industrie, tout le monde dit, ah, ça va être web only, tu sais. Tout le monde dit, c'est ça que tu vas faire, Jean-Pierre, web only, mais, puis c'est la tendance, puis les gens sont attirés vers ça. Je pense qu'en affaires, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, puis bien le comprendre. Moi, j'ai toujours l'exemple de la compagnie Polaroid, tu sais, qui font des photos instantanées. Dans leur tête, eux, ils vendaient des appareils photo instantanés. Ils n'ont pas compris que ça aurait été... S'ils comprenaient bien la photo instantanée, ils auraient dû faire les photos digitales, ils auraient dû être les premiers à avoir des cartes mémoire pour faire des photos. Mais ils ont fait faillite quand les photos instantanées sont devenues populaires, alors qu'ils étaient les leaders de la photo instantanée. Ils n'avaient pas bien compris qui ils étaient. Puis, moi, j'ai bien compris qui on est. Nous, on est des manufacturiers. Nous, on développe le meilleur vêtement plein air pour femmes. C'est ce qu'on fait. Pour le vendre, là, que ça soit dans un brick and mortar ou un web, on a des détaillants qui sont extraordinaires. On a des détaillants qui savent acheter, qui savent promouvoir, qui savent vendre beaucoup mieux que nous. Puis, on prend l'exemple du groupe de franchisés de Sport Expert. Les gens chez Serre, la nouvelle équipe chez Lacordé, qui se sont revirés sur des Saint-Saëns, tu sais, puis qui ont eu des années extrêmement positives cette année. Fait que, dès le départ, moi, je me suis dit, ben, nous, on va faire ce qu'on fait bien, puis on va passer la POC à un moment donné, on va faire une passe. Faire une passe à nos agents de vente et aux détaillants. On a ouvert 300 points de vente en Amérique du Nord, rapidement. Ça nous a donné la marque a été étendue territorialement comme jamais on aurait pu le faire par le web. On aurait pu le faire avec de la publicité placée, etc. Puis la seule différence qu'on a dit à nos détaillants, c'est nous, là, on ne compétitionnera pas. On va mettre un minimum advertising pricing policy en place. Valérie qui a fait ça. Mais par contre, notre inventaire qui est sur les tablettes, si vous ne voulez pas l'acheter, nous, on va l'offrir en ligne. Fait qu'on fait des ventes en ligne qui sont à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Ça grossit beaucoup. C'est à peu près 15%. Mais Altitude Sport, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est un détaillant en ligne hallucinant. J'ai vécu l'expérience, moi, dans le temps des fêtes. Je voulais aller marcher. Mes bottes de plein air, ils me faisaient plus bien, mes bottes de marche. À 11h30, le samedi, j'ai commandé des bottes. Je les ai reçues à 5h chez nous, le jour même. Fait que c'est un vrai détaillant, c'est un détaillant qui est très... moi, est-ce que moi, je suis capable de faire ça? Non, moi, je devrais mettre mon énergie, par contre, que mon manteau, là, ça va être le meilleur, puis que avec Karine, le fit va être exceptionnel, puis tu sais, c'est là où on veut. Puis dans notre modèle d'affaires, on a de la marge en masse pour vivre. Mm-hmm. Fait que au départ, ça a été ça l'idée, puis je suis content. Puis bon, les ventes web sont ce qu'elles sont, mais on peut les donner demain matin à n'importe quel détaillant. Tous ces produits-là sont pas sécurisés pour nous. Nous, on a toujours dit, on dit pas on n'a plus de produits, on dit available at one of our retailers. Le lien sur le site web se fait chez les détaillants, puis on pourrait mettre plus d'énergie dans la technologie, puis etc. pour qu'ils en bénéficient. Mais être un détaillant, c'est un art en soi, puis je pense que ils se réinventent, les détaillants de nos jours, puis ça devient des champions. En tout cas, faut savoir où mettre nos énergies encore une fois.
C'est intéressant ce que tu dis. J'écoutais, je pense, un entretien que Louis Têtu, qui est à la tête de Coveo, avait dit. Puis c'était bien entendu par rapport à l'industrie de la technologie, mais il avait dit quelque chose qui m'avait fasciné. Il dit, tu dois te concentrer uniquement sur la chose que tu sais pertinemment que tu vas gagner à chaque fois. Parce que la chose la plus dispendieuse, c'est d'arriver deuxième. Et moi, ça m'avait marqué parce que c'est vrai que si tu te concentres sur une seule chose, que tu le sais que tu vas être le meilleur dans ça, plus que n'importe qui, ben c'est là que la marge, la profitabilité, la rentabilité, la reconnaissance, la prise de marché va découler. Et à partir de là, ben là c'est là que tu es capable, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, d'amener ton entreprise à des multiples intéressants, 2.5, 5, 10, je sais pas exactement où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui, mais ça a l'air d'avoir le vent dans les voiles, là.
Ouais, ben vois-tu, on est en prise de commande. Parce qu'on est toujours un an en avance. Fait qu'on est en prise de commande, on va frôler, on va être juste un peu en bas de 20 millions là, sur nos livraisons 2022. Puis c'est ça qu'on. Cette année, c'est ça qu'on fait. Mais puis ce que tu dis, là, c'est exactement ça. Où tu vas gagner? Moi, quand un détaillant fait sa propre marque de vêtements, je peux-tu te dire que je vais être meilleur qu'eux autres?
Bien sûr.
Je vais être meilleur qu'eux autres.
Ben oui.
C'est là aussi que là, par exemple, il y a pas de pitié, tu sais, puis pour nous, puis notre équipe, puis ce qu'on doit réaliser, tu sais. Puis en même temps, chez Costco, il disait, là, il y avait les gros meetings Costco USA, puis il disait, quand on a un produit sur le plancher, il doit plaire à 8 consommateurs sur 10 qui rentrent dans notre magasin. 8 consommateurs sur 10 peuvent en 3 secondes prendre la décision d'acheter ce produit-là. Moi, je dis à nos détaillants, nous, il y en a 3 sur 10 qui vont vouloir acheter notre produit, parce qu'on est la marque qui va faire rêver les gens, bon, les du haut de gamme, etc., puis c'est pas tout le monde qui va pouvoir l'acheter. Fait que je comprends. Ils devraient avoir des produits qui ont moins de design, moins de branding, qui sont plus larges pour aller pour un plus grand éventail de consommatrices, alors que nous, il est plus pointu, puis on peut pousser plus loin dans ce qu'on fait.
Intéressant. C'est quoi l'avenir pour Indieva dans les prochaines années?
Mais tu sais, c'est certain que quand on parle du chiffre de vente, c'est toujours on a en tête les outils que ça va nous donner, tu sais. Le fun qu'on va avoir à le bâtir en même temps, tu sais, au début de l'entrevue, je parlais du journey.
Ben oui.
On a un plan en 2025 d'être à 50 millions de chiffre d'affaires. Pis ça, c'est Canada-États-Unis. Après ça, on va commencer tranquillement à exporter. Mais quand on pense à exporter, si tu veux bien le faire, des fois, il y a des similitudes, des petits trucs au niveau du fit que tu dois faire, au niveau de la couleur, de la palette de couleurs. En Europe, en ville, ils sont en noir. Quand ils vont à la montagne, ils sont super colorés. Nous, en Amérique du Nord, on mélange tout ça. Fait qu'on est entre le noir puis les couleurs. Fait que tu tunes un peu tes couleurs. Mais j'ai beaucoup d'amis distributeurs européens qui nous écrivent, puis de japonais, puis tout ça. Mais là, on se concentre sur Canada et États-Unis. On sait qu'on est capable de se rendre à 50 millions de chiffres d'affaires dans ce marché-là. Puis de le faire en même temps, là, puis on n'a jamais refusé un retour d'une cliente qui a acheté un produit qui n'était pas satisfaite. Puis nous, on a des manteaux qui sont moins 30. Puis si quelqu'un nous écrit parce qu'elle a froid, on dit, oui, on va le reprendre, ton manteau. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais qu'est-ce que je vais m'acheter? Ben, on ne sait pas. Fait qu'on dit, donc, je vais le garder. Mais on en prend 2-3 par année sur 20 000 manteaux. Tu sais, fait que, en même temps, tout le long, faut avoir ce respect-là de notre consommatrice. Tu sais, c'est avant d'être une compagnie, nous, on répond à un besoin. Quand la dame, elle met son manteau, puis elle zip, ou elle met ses pantalons, là, puis elle les enfile, là, faut qu'elle ait un petit quelque chose dans son cœur qui dit « Wow, je vais passer une belle journée. Ce manteau-là, il est exceptionnel. Je l'aime, mon manteau. » Et quand on pose la question aux consommatrices, souvent, « Ah, madame, mais vous, votre manteau? » C'est ça qu'ils nous disent. Fait que le succès, là, il est là. Le chiffre, il vient après, puis il va venir. Quand t'as la première étape.
Intéressant. Jean-Pierre, je terminerai avec des petites questions personnelles. Est-ce que pour bâtir toutes ces grandes organisations-là que tu es toujours en train de bâtir d'ailleurs, tu t'inspires, tu t'informes de quelques lectures qui pourraient te donner des idées pour continuer à bâtir tes organisations?
Oui, absolument. Puis aussi, à l'époque, j'ai fait beaucoup de conférences de vente. J'avais été avec Morancy Marketing, l'inspiration. Mais à chaque fois que je vais dans une conférence où je lis un livre, moi je dis je vais prendre une chose. Mais je vais l'appliquer.
Exactement.
Il y en a qui ont des concepts, ils vont te pitcher ça dans les 5 à 7. Là, t'es étourdi, tu te dis, mon Dieu, c'est le prochain Warren Buffett, tu sais. Mais ils connaissent tout. Mais qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu appliques? Fait que moi, il y a dans les livres que j'aime beaucoup, il y a un livre qui est, justement, quand on parle du journey, puis tout ça, c'est « Let my people go surfing » de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Fait que quand tu vois le titre de son livre, c'est Let My People Go Surfing. Fait que lui, Patagonia, Yvon Chouinard, c'est un Québécois qui a déménagé aux États-Unis il y avait 5 ans. Puis c'est un gars d'aventure qui avait commencé avec des compagnies de hard goods, de mousquetons, etc. Puis il est allé vers le vêtement. Puis c'est un gars qui a un engagement social à lui et son équipe extraordinaire. C'est protéger les grands parcs des changements de régulation qu'a fait Trump, sur le développement durable, le premier à le coton biologique. Lui, il allait dans les champs de coton, il parlait avec les gens, puis il disait, il y a ces moyens-là. Fait que nous, on suit ça parce que c'est une marque qui a un purpose, c'est une marque qui a une valeur, c'est une marque qui... Tu sais, moi, je t'ai parlé beaucoup que la femme est confortable et bien tout ça, mais comment il est fait? Le développement durable, là, c'est très important. Notre consommatrice, elle sera pas contente si elle apprend que ce vêtement-là, il est pas bien fait. Il est pas fait dans des conditions exceptionnelles. Puis nous, on pense comme ça. J'ai déjà dit dans une entrevue aussi, j'ai dit, moi, si le manteau coûte 3$ de plus, pas grave. Parce que on veut que les gens, ils travaillent dans des bonnes conditions. On a un manteau qui est 1050$ au détail. Fait que si on le paye 3 de plus, 4 de plus, 5 de plus, c'est pas grave. Faut que ce soit bien fait. Puis en même temps, il faut que ce soit des fibres naturelles ou recyclées, qui sont faites par des bonnes usines, par des personnes qui sont bien rémunérées. Mais le leader de ça, moi, ça, j'ai rien inventé là-dedans. Moi, je suis un deuxième là-dedans. C'est Yvon Chouinard. Puis le livre, c'est Let My People Go Surfing. Ça, c'est, c'est livre fétiche.
OK. Intéressant. Je me mets ça en note. Podcast, est-ce que tu en écoutes un petit peu?
Ben maintenant, j'écoute le tien que j'aime beaucoup.
Ah!
En écoutant en
c'est flattant.
J'aime beaucoup ça. Vraiment, c'est stimulant, c'est le fun, c'est des belles histoires. Je sais que tu vas chercher le meilleur chez tes invités. J'espère que ça va être, quand je vais écouter le nôtre, je vais penser ça aussi.
je pense que oui.
T'es bien gentil. Mais il y a quelque chose qui me fascine. Moi, c'est les podcasts sportifs. C'est de la vie des sportifs. Puis il y en a un nouveau que tu dois connaître, c'est La Poche Bleue.
Ben oui.
Tu sais, Maxime Lapierre, puis...
Guillaume Latendresse, ouais.
Latendresse, c'est... Puis la complexité d'être un athlète professionnel de nos jours et le jugement de tes clients, on n'a pas ça en affaire. Des gens qui viennent dire « Hey, aujourd'hui, là, ta journée était moyenne. » Puis quand tu écoutes, puis ils parlent à beaucoup de gens d'organisation de hockey, qui parlent de joueurs, etc., c'est vraiment là, ils ont énormément d'humilité, ces gars-là. Puis en plus, souvent ils disent « Ouais, mais j'étais pas bon, j'étais pas vite. » Attends une minute, là, tu vois, dans la Ligue nationale, mais ils ont des belles histoires. Puis ça, moi, comme humain, ça m'inspire beaucoup. Puis il y a la même chose au niveau du vélo avec Lance Armstrong, qui a un podcast qui il s'appelle The Move, sur des courses de vélo. Puis c'est la même chose. C'est maintenant, être un athlète d'élite, c'est une entreprise. Puis c'est une entreprise qui... Ils doivent penser à tous les aspects. Puis là, quand tu penses à la psychologie... Moi, j'écoutais la série Billions sur Crave. Puis ils ont un psychologue dans son bureau. J'aimerais ça un jour, moi, quelqu'un qui file pas, qui gère mal une situation. Mais dans les équipes sportives, il n'y a pas une équipe sportive qui n'a pas un psychologue.
Exact.
Mais en affaires, on devrait penser de la même chose. Il y a plein de petites choses aussi. La forme. Si t'es pas en forme, tu ne feras pas tes journées, là, ton intensité, tu ne feras pas. Fait que ça j'aime beaucoup ces podcasts sportifs. Puis juste me revenir sur un livre, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est Atomic Habits.
Oui.
Puis c'est ça, dans le marginal, le gain marginal, la petite chose que tu fais à tous les jours qui va faire que ton entreprise ou toi va être meilleur dans son travail. Puis je me rappelle de Blaise Pascal qui avait dit, peu importe la grosseur du caillou que tu vas lancer dans l'océan, son niveau va en augmenter.
Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est fait que il y a jamais d'action que tu vas faire qui ne contribueront pas, ou de façon positive ou négative malheureusement. Fait qu'il faut que tu penses que tout a un impact.
Exact.
Mini-mini va devenir gros plus tard.
Ben là, c'est facile dans ce cas-là de te poser la prochaine question que j'ai en tête. À quoi ressemblent tes routines de travail avant le travail, pendant le travail ou après?
Ben, premièrement, moi, je suis loin d'être le premier arrivé au bureau. Je suis plus le dernier arrivé au bureau parce que je dois arriver dans une énergie exceptionnelle. T'sais.
Okay.
Nous, on a encore aujourd'hui un bureau qui est ouvert. C'est pas ma porte est ouverte, il n'y a pas de porte.
Okay.
Fait que ça prend un commitment. Tout le monde peut venir me voir, me poser des questions en tout temps, et c'est mon rôle de répondre tout le temps puis de les envoyer vers notre plan d'affaires, vers la vision future qu'on a de l'entreprise, des processus, des etc. Fait que moi j'arrive puis toujours avec une énergie qui doit être. Je fais le tour, bonjour à tout le monde, ça c'est bien important. Puis je suis prêt à play ball. Tu sais, je suis en bonne forme. Par contre, je vais étirer mes journées un peu. Sauf, puis j'en ai une fierté, j'ai un groupe de chums avec qui on fait du vélo le mardi après-midi, puis je pars à 4h, puis je dis à tout le monde, je m'en vais faire du vélo, parce que c'est important. On a un guide d'employés, puis rapidement te dire là que ce qui est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Nous, un employé qui rentre, il y a 6 semaines de congé. Il y a 3 semaines de congé. Il y a 5 jours de maladie. Il y a entre Noël puis jour de l'an qui est en congé payé. Il y a le vendredi de Pâques et le lundi de Pâques. Le vendredi saint, lundi de Pâques. Et l'été, les après-midi sont en congé. Puis la semaine est à 37h30. C'est le même salaire. Parce que on veut qu'il dure longtemps, on veut qu'il soit bien, puis on veut qu'il enjoy the journey, qu'il soit bien dans le développement. Fait que c'est bon pour moi, c'est bon pour eux. Fait que on a tous des hauts puis des bas. L'important, c'est de faire la distance. Je sais de quoi je pense. Ça fait 30 ans que je fais ça.
Ben oui.
Puis surtout des années comme ces années où on peut pas aller se réfugier dans le sud ou faire une aventure de plein air extraordinaire. Puis ça, c'est quelque chose. Après 5 ans, tous nos employés, on va leur ajouter 3 semaines de congé. Ils vont avoir 6 semaines plus un budget additionnel pour vivre une aventure de plein air exceptionnelle en portant nos produits. Ou des produits, si c'est un gars d'un compétiteur qu'on veut s'inspirer ou quoi que ce soit, on veut mesurer, voir qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est un peu le c'est bon pour moi, c'est comme ça que je vis ma vie au travail, c'est bon pour tout le monde.
Ben, je pense que ça fonctionne.
Oui,
si on regarde la croissance de votre organisation, de ce que tu as été capable de faire dans le passé, ta formule est clairement une formule à succès. Puis bon, si on veut en apprendre un petit peu plus sur Indieva, sur peut-être vous avez des postes d'ouvert également. Où est-ce que c'est le plus facile pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui d'en savoir plus?
Ben en fait, moi c'est facile, c'est JP à Indigena ou Indieva.com. Puis on a une page, une web, on a l'info à Indigena Indieva. Toujours le contact. Puis oui, on a des postes ouverts. On a un poste en transport en ce moment qui est ouvert. On a un poste en marketing qui va s'ouvrir à la fin juin. On a des postes ouverts constamment. Fait que si les gens sont intéressés à travailler dans un environnement comme ça, qui aussi est aussi stimulant, aussi rassurant, aussi équilibré, qui est intense. Parce que on est des gagnants.
Of course. Puis je pense que c'est tout. C'est ça, à la fin de la journée, de toute façon, que quelqu'un qui a de l'ambition veut. Il veut faire partie d'une organisation qui a le vent dans les voiles, qui veut aller chercher plus de parts de marché et qui, d'un autre côté, va récompenser l'employé par ses efforts. Donc, ça fait partie du jeu.
Exactement. Puis tu sais, quand tu grossis, tu te réinventes. Hein? Tu réinventes ta compagnie. Puis c'est à un moment donné, ben tu vas plus vite puis tu montes la montagne puis il y en a qui ont de la misère à monter, mais ils veulent. Tu le prends, tu l'aides. Tu l'accroches, donne-moi ton sac à dos, on va monter ensemble. Il y en a qui disent, no way, j'y vais plus, moi, it's enough. OK, parfait. Bon, on va trouver quelqu'un qui a envie de monter la montagne.
Et voilà.
Fait que, ouais, c'est comme ça qu'on voit ça.
Jean-Pierre, merci beaucoup de ton temps. Tu as été très généreux dans tes réponses, très généreux par tes histoires. Je pense que l'audience va avoir appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la croissance des différentes organisations dans lesquelles tu as pris part au cours de ta carrière entrepreneuriale qui a commencé il y a certaines années maintenant, qui continue d'être florissante. C'est assez exceptionnel tout ça. Donc, merci beaucoup de ton temps. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Je suis toujours épaté de constater la résilience et la persévérance des entrepreneurs en série que je rencontre. Bâtir une entreprise de l'envergure de Lolé, vendre l'organisation pour ensuite en repartir une qui va bientôt devenir plus grosse que la première, démontre un sens des affaires assez extraordinaire. Chapeau Jean-Pierre pour cette fabuleuse croissance. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement distinctes à G7 Media. On vous invite donc à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.